vous êtes dans le secteur des tours Bardi puis vous voyez de la boucane, ben il y a effectivement un incendie. Ce serait à la hauteur du 7e étage, les tours Bardi. Je crois que c'est un HLM. Il y a énormément de gens qui sont là. J'espère que tout le monde a réussi à sortir puis que tout le monde est en sécurité. Mais si vous voyez des pompiers, si vous voyez des policiers, c'est exactement ça qui se passe. Vous avez de l'information pour nous, 88-971-1021.
1900 rue Desilets, troisième alarme, colonne de fumée noire, vous la voyez encore, elle est visible de très loin, comme tu as précisé, 7e étage. Puis oui, branle-bas de combat, un petit peu de circulation dans le coin qui n'est pas la même qu'à l'habitude, vous comprendrez qu'on fait pas ailleurs.
17 degrés sur Québec, généralement ensoleillé pour aujourd'hui avec un maximum de 18. Ce soir, des nuages, pas de probabilité d'averse de prévu pour aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, minimum de 10 degrés. Denis Gravel est en studio avec... C'est-tu ton linge automnal?
Ouais, c'est le linge d'un gars qui a poigné un coup de fraîche en fin de semaine, puis j'ai l'impression de pas m'en être remis encore. Habituellement, je les traîne, les shorts, là, mais là, non, les chemises hawaïennes, puis ça a tout pris le bord.
Ce qui est weird, c'est que là, on est comme tout avec notre linge un peu plus lourd, là.
Ouais.
Mais lorsque le printemps va arriver, puis il va avoir exactement cette température-là, on va tout être en
camisole. Tout est beau. Non, on est fait de même, là, je veux dire. C'est comme chaque printemps, c'est la première fois qu'on voit du temps à 10 degrés puis du soleil. On dirait que c'est la première fois de nos vies qu'on voit ça. On est cyclique de même, puis à l'envers, ben dès qu'on perd le 20 degrés, je pense que c'est le 20. Tu sais, quand tu as un maximum à 20, 21, 22, tout va bien. Mais quand le maximum tombe à 18 avec un petit vent, là c'est terminé. On est en mode hiver. Là.
Dans le sud, est-ce que tu penses qu'ils l'apprécient autant? Cette température-là?
Ah, ils viennent blaser. Tu sais, je comprends là, que l'hiver, c'est poche, puis on gratte, puis c'est de la merde, mais ça nous fait réapprécier l'été chaque saison, chaque fois. Ouais. Par contre, je pense à des gens qui ont comme passion le bateau. Je pense à un gars comme toi qui a la moto comme passion. Mm-hmm. Vous autres, je trouve ça dur, la 4 saisons. Parce que des fois, la saison où vous pouvez en profiter est pas longue, puis vous tombez un par un, une fois de temps en temps, par ses chairs, immatriculer vos affaires, puis tout ça. Mon chum Pierrot a ramassé sa moto. Il en faisait à chaque été, puis là, cet été, ça a été l'été où il s'est dit, regarde, moi aussi, j'ai pas le temps, puis...
Quand ça te coûte 3 000$ pour 3 sorties, là...
Exact! Exact.
Que tu revois un peu tes passe-temps.
Ça fait mal.
Moi, c'est pas tant l'immatriculation. Là. J'ai mon petit contrat, puis j'accumule mon argent chaque semaine pour payer mon immatriculation de moto. C'est plus le fait d'avoir des enfants. T'sais, à la fin de semaine, ça change un peu le
beat. C'est sûr. Hein?
Fait que là, il faut que je me choisisse des moments où je décide de venir travailler avec ma moto. Mais ça n'a rien à voir avec partir de longues fins de semaine. J'ai des chums qui partent, de temps en temps, ils partent vers l'Est, puis ils se disent « on reviendra quand... quand il fera moins beau, puis après ça, ils repartent l'autre bord, puis ils arrivent en Ontario, font une coupe de resto, puis après ça, ils redescendent ici.
J'ai cru comprendre que le thrill d'avoir une moto, c'est pas de vivre le trafic puis d'aller travailler avec soir et matin.
Je suis persuadé que toi, parce que tu me dis qu'au centre-ville de Québec, ça t'intéresserait pas de faire de la moto, et je te comprends.
Ouais.
Mais toi, t'es le même style que moi, c'est de faire de la moto de pépère en Beauce sur des longues routes sinueuses. C'est d'aller faire un tour aux Équerres. Je sais pas si tu as déjà été, de promener en voiture aux Équerres.
Tellement beau.
C'est entre le village vacances Valcartier puis Stoneham, en fait. On appelle ça c'est Tewksbury, là. C'est de toute beauté. Il y a des montagnes, tu te promènes là-dedans, tu te dis, mais comment ces gens-là... Pourquoi je suis pas venu m'établir ici tellement que c'est beau? Tu as connu Sainte-Brigitte-de-Laval?
Oui.
Mais on dirait que c'est Sainte-Brigitte-de-Laval x10, Tewksbury.
Si j'étais un tripeux de moto, comme toi puis comme d'autres, je penserais vraiment aller dans un endroit où je pourrais en faire à l'année longue. Puis je pense à...
De déménager, littéralement?
Ah, absolument, absolument. Ça ferait partie de mes priorités. Puis c'est pas pour rien que je me tiens loin de la moto, là. je pense que je deviendrais addict vite. Mais ayant aucune connaissance mécanique, je suis pas sûr que je me ferais confiance comme d'autres se font confiance. Le batteur de Rush qui est décédé, Neil Peart, était un maniaque de moto. Puis les dernières tournées de Rush, lui, ça y tentait plus de drummer, ça y tentait plus de faire de la musique. Mais pour se stimuler, il sortait des... grosse carte routière, là, fuck Google Maps, le gars est old school, tu sais, il sortait les cartes routières puis il se disait, OK, là, demain, on est à Philadelphie. C'est quoi la route la plus longue et la plus sinueuse entre ici puis Philadelphie? Et le gars partait en moto. Je veux dire, le reste du band partait avec les tour bus puis ainsi de suite. Neil Peart partait tout seul en moto. Ils ont négocié avec et dit, regarde, on va prendre un roadie qui fait de la moto puis il va t'accompagner au cas où. Neil a accepté. Fait qu'ils partaient les deux, faisaient de la route toute la journée. Puis après ça, le gars arrivait à dernière minute pour le show. Il prenait ses baguettes, il drumait 3 heures de
top
rush.
Shape, ouais.
Pendant que le roadie qu'il suivait en moto, qui était plus jeune que lui, il arrivait à la fin de la run de moto, puis il était brûlé, il était lavé. Il dit, comment est-ce qu'il fait pour drummer Tom Sawyer après ça? Lui, je le sais pas, mais c'était un maniaque de moto, puis lui, ça lui permettait de faire le vide pendant une tournée.
C'est exactement ça. Je sais pas si lui, il mettait de la musique. Là. Moi, dans mon casque, j'ai la possibilité de mettre de la musique. Tu peux pas mettre ça très fort.
Ouais, c'est-tu légal? T'as-tu le droit?
C'est légal, okay. C'est juste qu'il doit avoir un certain nombre de décibels que tu peux mettre.
Pour que tu sois encore aux aguets de ce qui se passe autour,
même
j'imagine.
La musique, dans le fond, dans mon casque, là, j'entends les véhicules s'approcher de moi. Là. Okay. C'est pas assez fort pour dire que c'est extrêmement dangereux, mais tu es sur des routes sinueuses, tu écoutes ta musique préférée, Johnny Cash. Moi, c'est Johnny Cash. Ah.
Il n'y a rien comme ce sentiment de liberté-là. Là.
Non, c'est ça. Puis tu te vides la tête complètement. Toi aussi, ouais. Tu as ton permis de
oui,
moto.
Oui, oui, j'ai pas de moto depuis 2 ans, mais ça me à chaque fois que j'en vois, ça me mange à l'intérieur.
Je rêverais de me perdre, puis j'ai jamais eu le courage de le faire. Je rêve un jour de partir, puis que ce soit en moto, que ce soit en char, que ce soit en VR, puis juste partir. Puis t'as aucune idée où tu vas, tu sais. Puis d'aller te perdre.
T'arrêtes où tu veux, parce que de toute manière, t'es attendu nulle part.
C'est ça. Puis en même temps, ben, à partir du moment où t'as une famille, t'as des enfants, t'as des obligations familiales, tu sais que ce temps-là, tu l'auras pas avant un petit bout. Fait que j'ai commencé à parler à mes enfants. Hein. Papa, il est parti à 16 ans, lui, de la maison. C'est pas vrai.
C'est drôle parce que moi, je fais le même joke à mes gars, là. Mon gars. Nos gars sont très rapprochés au niveau de leur fête et tout ça. Oui. Là, moi, c'est le 10 octobre, la fête de mon plus vieux. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Là, il m'a dit ses souhaits. Je suis pas trop sûr je vais être capable de réaliser tous ses souhaits, mais je dis, parfait, là, tu vas avoir quel âge? Il me dit, 11 ans. OK, cool. Fait, c'est vrai qu'à partir de là, il va te rester 5 ans à rester avec papa. Puis là, il m'a regardé. Ben, j'ai dit, à 16 ans, tu peux quitter la maison. Et là, sa mère a dit, t'es cave. Tu dis pas ça à mes enfants.
Ben là, mais le jour... j'ai des projets pour ta chambre, moi.
Il y en a plusieurs qui le disent. Mais le jour où ça va switcher, puis c'est les jeunes qui vont dire, et que je vais partir dans un an. Et ça va être ça. Puis là, vous allez faire, non, dans le fond, tu peux rester
mais
ici.
Mais je me vois pas sans mes enfants. Moi.
Ça va être tough. Hein?
Ah, ça va m'arracher le cœur.
La première année, j'arrêterai pas de broyer. Je comprenais pas. Hein, quand je suis parti au cégep, parce que c'est vrai que je suis parti à 16 ans pour aller au cégep de Jonquière, puis je ne comprenais pas pourquoi ma mère pleurait. Puis je me disais, c'est une bonne nouvelle pour eux autres. J'étais un grand flamou, je fais rien. Puis là, je m'émancipe, je m'en vais vivre ma vie. Puis tout ça, il y a juste du positif là-dedans. Je sais que quand ça va m'arriver, je vais brailler ma vie. Là,
parce que c'est ingrat de prendre la décision d'avoir des enfants, Pascal. Parce que t'as pas des enfants pour eux, t'as des enfants pour toi.
Ouais, si tu veux bien t'en occuper, oui.
Non, mais t'as des enfants pour toi. Ouais. Je veux des enfants. Ouais. Les autres, ils n'ont pas choisi là, d'arriver.
Ils sont venus au monde et ils ont hâte de voler. Là.
Puis là, ta job, c'est d'essayer de leur montrer qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils quittent le nid et d'essayer de les rendre indépendants. Mais une fois que ta job est faite et qu'ils n'ont plus besoin de toi, ça t'arrache le cœur parce que tu as pris cette décision-là d'avoir des enfants pour toi.
Tu peux pas commencer à dire « ça fait pas assez longtemps que je t'ai vu » parce que tu sais qu'ils ont une vie d'adulte.
Ben oui.
Moi, à un moment donné... Puis elle avait raison de le faire. Là. Mais ma mère, elle calculait. Là. Ça faisait combien de temps la dernière fois qu'elle m'avait vu? Parce que j'habitais dans des villes différentes, parce que j'avais plein de choses que tu développes aussi dans le momentum adulte, dans vingtaine. Tu as plein de trucs.
J'en ai parlé avec des couples qui ont trouvé ça très difficile de se retrouver sans enfants. Tu sais, tu rêves à ça, t'aspires à ça, tu t'organises des voyages dans ta tête, des projets, puis ainsi de suite. Mais quand les enfants partent, des fois, tu réalises que on a été une équipe, on a été une famille. On est-tu encore un couple? On a-tu encore suffisamment de choses en commun pour continuer la run à deux avec ce vide-là qui vient de se créer? Puis pour plusieurs personnes qui ne l'ont pas vu venir, ce bout-là, ils l'ont trouvé dur individuellement. Puis ils l'ont trouvé dur pour le couple aussi. Il y a des couples qui passent pas à travers.
Oui, effectivement. Mais bref, ça va bien, là. Hein? On touche à rien.
Faire semblant, vous avez donc bien hâte.
J'en ferai pas de moto, anyway.
On leur fait des jokes à nos enfants. C'est juste que les mères comprennent pas les jokes qu'on fait.
Ouais, c'est ça.
Avez-vous, peut-être en conclusion là-dessus, là, avez-vous peut-être un rêve de partir avec vos jeunes, justement, sur un nowhere comme ça?
Moi, j'ai fait la route 66 en 2008.
Avec tes gars?
Non, tout seul.
Non, je te parle avec tes gars, t'aurais-tu un rêve?
Ben voilà.
Avec
c'est de refaire la route 66, mais avec eux autres en moto, avec leur moto.
J'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages parce que j'ai été célibataire longtemps puis j'ai fait une couple de trips à mon goût. Moi, le rêve que j'ai...
Entre chez vous et chez elle?
Puis j'ai pas tant de... Au pluriel. Chez elle, LLES.
Chez elle.
Chez elle's Angels. je souhaite que le prochain voyage vienne d'eux autres. Je veux que le prochain trip que je fasse, ce soit leur idée à eux autres. Puis tant mieux si c'est quelque chose qui me tente pas ou qui m'inspire pas.
Ça va t'amener ailleurs.
Je veux qu'ils me fassent découvrir de quoi. Fait que Idéalement, ça serait pas Boston, là, tu sais, les pantoufles à papa ou n'importe quoi. J'aimerais ça qu'ils me sortent de mes pantoufles puis qu'on aille découvrir quelque chose
Nouvelle-Zélande?
Ensemble. Ouais, pourquoi pas?
En sac sac.
Ça me dit fuck all, la Nouvelle-Zélande, fait que pourquoi pas?
Je pense qu'Arthur va prendre le lead, là.
Toi, t'aimes ça marcher, Nouvelle-Zélande? Mm-hmm. Tu peux marcher en masse, là.
Ouais, ouais, ouais. On pourrait faire Compostelle en famille, mais j'ai peur de croiser Coderre.
Ben oui,
pas avec son sac d'argent.
Hey, je veux parler un peu d'actualité avec vous autres. Thomas Gerbeck, qui est un des meilleurs journalistes qu'on a au Québec. Moi, c'est quelqu'un que j'aime depuis des années, a sorti un dossier qui est, à mes yeux, un bon ton de marde quand je parle de ça. Okay. Et le gouvernement devait pas être heureux de voir le papier de Thomas Gerbet ce matin.
Non, non,
parce
non.
que Thomas Gerbet sort la nouvelle comme quoi les Autochtones et Hydro-Québec, ça fait pas bon ménage. Et les Autochtones devraient 250 millions de dollars à Hydro-Québec, mais Hydro-Québec ne veut pas nécessairement réclamer cet argent-là aux Autochtones parce qu'ils craignent la réaction des Autochtones.
Tu sais, c'est le genre de dossier que tout le monde est au courant puis que ça fait bien qu'on n'en parle pas. Mais quand dans un texte, on raconte qu'un Autochtone prend sa facture d'Hydro de 800$ qui la déchire d'en face du journaliste puis qui se dit « Anyway, ils me couperont jamais » et que l'individu a raison... là, c'est public. Et là, ben, c'est là que tu attises la haine, l'envie, la jalousie, et ainsi de suite. Tant que t'en parles pas, c'est un problème que tu veux pas régler. Puis c'est un problème que tu ne veux pas adresser, tu sais.
Et quand les journalistes se sont déplacés pour aller rencontrer certains Autochtones qui avaient des petites dettes, dont un qui avait 75 555 $ de dettes...
On s'entend que lui, il a jamais payé un compte d'Hydro, là.
Lui, il a ouvert l'enveloppe, il a regardé, puis il a tout simplement déchiré l'enveloppe en disant aux journalistes, ben, je suis pas vraiment inquiet parce qu'il ne coupe jamais l'électricité. Ouais.
Puis les communautés du Nord... où c'est le plus courant, ben eux autres, ils ont juste à amener le journaliste sur le bord de la fenêtre puis à montrer, dire, regarde, vous avez tout scrappé nos terres, ben en retour, nous autres, on paye pas notre électricité. Et il y a personne qui va aller les ostiner au niveau politique. Je veux dire, va falloir avaler la couleuvre puis attendre qu'on n'en reparle plus puis qu'on fasse semblant que ça n'existe plus.
Oui, il y a un Autochtone qui avait été interviewé par Radio-Canada qui dit « Ben, vous détruisez mon territoire, moi, je détruis votre facture. »
Voilà.
Mais je...
c'est tout. Il n'y a pas un politicien qui va aller là. Pas un politicien de la génération de nos enfants et ainsi de suite. Okay. On réglera jamais ce problème-là.
Mais toi, tu payes pas ton hydro, qu'est-ce qui arrive?
Ben, éventuellement, ils vont venir me couper.
Si c'est l'été, ils te coupent. Si c'est l'hiver, ils vont attendre encore quelques mois, puis après ça, ils vont te couper. Pourquoi? Les règles sont pas supposées être égales pour tout le monde?
Écoute, ils ont un point, je trouve. Okay, combien de temps tu peux faire avec ce point-là? Moi, je suis ouvert à la discussion, mais sur le point de base, t'es obligé de dire que le monsieur a raison.
C'est la question que je te pose, Denis. Mes arrière-petits-enfants qui sont pas encore au monde, ils vont-tu avoir encore à écoper pour ce que mes ancêtres ont fait?
La réponse, c'est oui. Politiquement, il y a personne jamais qui va aller là.
À un moment donné, il faut que ça finisse. Là.
J'imagine que t'as un point.
Il y a des excuses qui ont été faites. Puis on avait raison de faire ces excuses-là. Il y a des atrocités qui ont été commises sur ces communautés-là. Mais à un moment donné, de voir que eux n'ont pas besoin de rembourser leur dette à Hydro-Québec, mais que toi, tu peux te faire couper n'importe quand mais si tu n'oses pas payer pendant deux mois.
Tu t'imagines-tu comment ça peut dégénérer rapidement une affaire de même? Les politiciens l'ont, cette imagination-là. Puis on peut se fâcher, on peut trouver que c'est pas
ça
juste.
Ça prendrait du courage.
Du courage en lettres majuscules, je te dirais même une bonne dose d'effronterie, là, parce que la police va s'en mêler, l'armée va s'en mêler, les communautés autochtones du reste du pays vont s'en mêler. Il n'y a personne qui veut aller là. Personne. Fait que le monsieur peut déchirer ses factures en paix, il ne sera jamais coupé, puis nous autres, va falloir avaler ça. On n'a pas le choix.
Mettons qu'on coupe.
Ouais.
On coupe la ligne.
Ça ira pas bien.
Non.
Non, on va se ramasser avec un OK numéro 2.
Ils vont nous dire, ben là, vous devez nous fournir l'électricité. On va dire, ben vous devez la payer, non?
C'est pas si simple. Ça peut sembler si simple, mais ça marchera pas parce que tu vas ameuter rapidement toutes les communautés autochtones du Canada qui sont capables d'ameuter l'ONU, qui sont capables de... Ça peut devenir gros très vite. C'est une balloune qui va se gonfler tout seul. Le feu va pogner à grandeur. C'est le principe de la cigarette à 36 degrés dans le milieu de la forêt. Là. C'est pas le go qui anime les incendies, c'est des cons avec des vieilles tops. Ça, là, c'est une vieille top que t'envoies dans une forêt vierge qui attend juste de se faire brûler à grandeur. Je comprends ton point de logique.
Bien, c'est parce qu'on a négocié avec eux autres.
Oui.
Avec eux autres, on a instauré les barrages.
Oui.
Il y a des Amérindiens qui ont travaillé sur ces fameux barrages-là. Il y a eu de bons emplois qui se sont créés. Puis après ça, ben, il y a eu d'énormes redevances avec ces fameux barrages-là. Mais à partir du moment où tout ça s'est réglé, ils doivent payer leur bill d'hydro. Là.
Je comprends ton point logique à 200%. Ce sera jamais fait. Jamais.
Moi, je couperais le cours.
Hey, on a des politiciens qui n'ont pas le courage de faire grand-chose. Penses-tu qu'il y en a un qui irait se mettre le pied dans le piège de renard à ours? Jamais.
Ouais, Pascal, on est rendu où, là?
Hey, l'incendie, il faut en reparler pour les tours Bardi, là, en ce moment. On est troisième alarme, plus de 65 pompiers sur place. Ça, c'est une chose que ça a sonné à 11h50 pour cette fumée noire-là et l'incendie au septième étage. Normalement, on en parle d'une manière X dans les nouvelles. Le hic étant, tout ce qui était au-dessus du septième étage dans les dernières minutes, c'est des gens qui n'étaient pas évacués. Donc, il y avait une crainte, il y avait une frousse qui était encore prise dans le bâtiment. On voyait des gens sur les balcons. Et la frousse est rendue jusque dans nos textos, 88-971-102. Merci de nous avoir écrit en passant pour nous donner l'information. Et je viens de parler à une femme. C'était une femme âgée avec une canne qui était prise là depuis plusieurs minutes puis qui était affolée. Fait que son fils a réussi à aller la rejoindre. Puis on vient tout juste de faire descendre les gens des étages supérieurs. Par l'escalier. Donc, pour ceux qui s'inquiétaient pour leurs proches, leur famille, enfin, on a réussi à évacuer les gens de la tour. On est là-dedans au moment où l'on se parle. Là. Même les gens qui avaient un petit peu plus de mobilité réduite, si on veut, on était capable de les prendre en charge. Ça vient de se passer dans les dernières minutes.
Non, dans des édifices comme ça, les ascenseurs doivent être... Il y en a qui vont vouloir prendre l'ascenseur. Tu dis que la dame avait de la misère
à se mouvoir.
Ouais. Donc, nécessairement, on voulait la faire descendre par les escaliers, mais quand t'as de la misère à te mouvoir, tu dis, je vais prendre l'ascenseur.
Ouais, mais madame, là, un incendie. Ça brûle, là. Puis ouais, c'est ça.
Puis l'incendie, oui, septième étage, mais sixième aussi, tu sais, ça se propage, ouais. Ces choses-là. Puis c'est quand même affolant.
Puis
de
mémoire, la fumée dans un édifice, ça monte. Hein,
oui,
ça.
Absolument.
Oui, oui. Oui. Encore là, t'as une bonne logique.
Rendu au dixième étage, ça se peut, tu tousses un peu.
Puis ça veut pas, ça stresse, là.
C'est sûr. C'est sûr.
Hey, Bruno Marchand qui s'est mis à dos les divers paliers de gouvernement. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau du fédéral pour ce qui est de Bruno Marchand, mais au niveau du provincial, sa relation avec la coalition Avenir Québec, ça va pas, mais ça va pas du tout. Bonnardel lui a tendu la main en lui offrant les gens de la Sûreté du Québec de façon sporadique. Là. Quand vous en avez de besoin, on peut vous prêter des agents pour régler ce problème de violence dans nos rues avec les divers groupes criminalisés. Mais ce qu'on apprend sous la plume de journalistes de Radio-Canada, c'est que la Ville investit seulement 8% de ses dépenses dans sa police, alors qu'ailleurs, c'est autour d'11%. En fait, c'est le cas pour Montréal, c'est le cas pour Laval, c'est le cas de Gatineau aussi. Et chaque point de pourcentage, ça représente quelques millions de dollars, sinon des dizaines de millions de dollars. Donc, Bruno Marchand, dans son budget, pour ce qui est du SPVQ, ne donne pas assez d'argent à sa police.
Pourquoi j'ai l'impression que ce chiffre-là, la CAQ l'avait puis la Ville de Québec l'avait pas? Moi, j'ai l'impression que dans la joute politique présentement, t'as un nouveau maire qui manque drôlement d'expérience, qui apprend la job sur le tas face à des vieux routards politiques qui connaissent toutes les jambettes et toutes les façons de faire et qui en profitent de façon peut-être un peu malhonnête et malicieuse. Je prends pas la défense de Bruno Marchand, mais j'essaie d'expliquer ce qui se passe peut-être présentement. Moi, je pense que la semaine passée, quand Bonnardel dit non à rajouter de l'argent au financement de la police de la Ville de Québec pour lutter contre le crime organisé, je pense que quand Bonnardel dit non, il y a le chiffre. Que la Ville de Québec n'investit pas autant que la Ville de Montréal, que la Ville de Gatineau, que la Ville de Laval. J'ai l'impression que quand Bruno Marchand demande de l'argent au gouvernement, il n'est pas au courant de cette information-là. J'ai l'impression qu'il ne sait pas.
T'inquiète un peu. T'sais, Poilievre avait traité Bruno Marchand et Valérie Plante d'incompétents dans le dossier de l'habitation en disant, ben là, on veut bien les aider. C'était le dossier aussi du transport en commun. On va bien les aider, mais il y a hors de question qu'on donne de l'argent à des gens qui sont incompétents. Oui. Et Bruno Marchand et Valérie Plante avaient été outrés de ça. Il y en a qui vont dire, dire avec raison. Là, c'est la Coalition Avenir Québec qui semble pas avoir Bruno Marchand dans son cœur.
Puis là, c'est Jean-Bête par-dessus Jean-Bête. On peut même se demander, si vous voulez jouer les parano, comment ça se fait que Radio-Canada est tombé comme par magie sur cette information-là. Encore une fois, je pense pas que ça vient de l'Hôtel de Ville de Québec.
Est-ce que Bruno Marchand va continuer à durcir le ton? Parce que c'est ce qu'il fait avec la CAQ depuis des mois et des mois. À un moment donné, la CAQ va dire, écoute, c'est nous qui décidons de l'argent qu'on doit te donner et ce sera pas toi. Là.
Ben là, il a accepté à distance de collaborer puis de dire oui à l'offre des, de la Sûreté du Québec.
Qui est de l'aide, là. Ouais. En recherche, en vigilance, mais pas d'argent. Là, toujours
exact,
pas d'argent.
Exact. C'est sûr qu'il va falloir que le ton change d'une façon ou d'une autre, mais je pense que la CAQ est en train de gagner le bras de fer, que ça nous plaise ou non. Moi, ça m'embête beaucoup, au-delà de ce qu'on pense du maire ou de la CAQ, qu'un gouvernement fasse ça avec le maire d'une des villes les plus importantes de la province. Ma ville, encore plus. Mon petit côté chauvin, quand même. Là. Mais quand tu demandes de l'argent, puis quand tu décides de tenir tête à un gouvernement, faut que ta maison soit propre. Avant de demander de l'argent supplémentaire au gouvernement, organise-toi pour dépenser autant, investir autant sur ton service de police que les grandes villes qui demandent une bonification. Faut que tu sois au moins égal à eux autres. Sinon, tu peux même arriver avec l'argument de dire « Nous autres, on investit déjà plus sur notre service de police que les autres grandes villes, puis c'est pour ça qu'on demande de l'argent supplémentaire. Non seulement on fait notre part, Monsieur le Président, mais on en fait plus que notre part. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent supplémentaire. » Là, c'est pas ce qui est arrivé. On investit moins sur notre police à Québec, puis avant de peut-être rattraper ce retard-là, avant de sortir de l'argent de notre poche pour dire « faut au moins faire la même part, le même quote-part que Montréal, avant d'aller demander de l'argent », c'est un faux pas politique, puis la CAQ en a profité.
Régis Labeaume terrorisait les gens de la Coalition Avenir Québec. Régis Labeaume...
Ils en veulent plus de Labeaume.
...terrorisait les députés fédéraux parce qu'il y avait 80 % de sa population qui était satisfait du travail de Régis Labeaume. Donc, il était capable à lui-même de faire élire des députés provinciaux ou encore des députés fédéraux. J'ai pas l'impression que Bruno Marchand a ce pouvoir-là. Du moins, la CAQ dit on n'a pas nécessairement besoin de Bruno Marchand pour repasser à Québec.
La CAQ avait peur d'un nouveau Régis Labeaume à Québec. Puis souviens-toi au début, le petit buzz, les espadrilles, le ton, les idées, la première entrevue qu'il était venu faire ici, tu sais, les « Hey, zéro itinérance, ça va rouler, puis les affaires, puis le logement social, puis on va régler un paquet de trucs, puis on va vous convaincre un par un du tramway, puis ça va bien aller. » Puis tu sais, il y avait un élan qui, je pense, a effrayé la CAQ, puis ils se sont dit « Vite, lui, là, faut le casser avant qu'il devienne... » un nouveau Régis Labeaume.
T'as l'impression qu'on s'est dit ça avant? Moi, oui. J'ai l'impression qu'ils se sont dit ça en apprenant à le connaître. Tu vois, Pascal?
Hey, moi, ça, depuis tantôt, là, il t'a dit, t'as passé vite, t'as analysé puis tout, mais le moment où t'as dit, j'ai l'impression qu'ils ont vu peut-être une défaillance en termes de leadership pour la mairie à quelque part, puis ils ont dit, parfait. Parce que la CAQ, rappelez-vous, lors de l'annonce de son prochain mandat, s'ils étaient élus, il allait donner beaucoup plus de latitude à tout ce qui est paliers gouvernementaux et ou organisations pour se gérer eux-mêmes. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a resserré à vis partout. Puis on a remonté la façon de gérer presque à François Legault. Fait que tout est... Là, ils ont probablement vu le no man's land, là, on va l'appeler de même, dans les yeux de Bruno Marchand une fois élu. Probablement, il était pas sûr, il pensait que c'était Marie-Josée. Finalement, il s'est dit, c'est moi. Il était un peu surpris pour plein d'affaires. Puis on dit, si on, effectivement, on rentre pas tout de suite, on ne réussira peut-être pas à avoir les rênes de la ville.
Oubliez pas, c'était quoi le projet de Régis Labeaume à un moment donné, de dire Québec va devenir une cité-État. T'sais, vous souvenez-vous de ça? On voulait de plus en plus de pouvoir pour la ville de Québec. On voulait profiter de la position de force du maire pour dire on va ramener du pouvoir décisionnel à la ville de Québec. Mm-hmm. Moi, une idée qui me plaît en passant, tant que le maire nous plaît, moi, j'ai l'impression que plus le pouvoir est proche de nous autres, mieux c'est. Indépendamment des maires, qu'on les aime ou qu'on les aime pas.
Déjà, il y avait toujours un pas derrière avec la ville de Québec. Ouais. Ça a toujours été plus difficile municipalement, de façon provinciale ou fédérale, de se défendre.
Puis je pense que la nouvelle génération des maires, qui paraissait bien au début, puis j'ai l'impression que la CAQ a vu ça d'un mauvais œil, puis qu'on a voulu prévenir ce genre de discours-là pour se dire qu'il faut garder le contrôle sur les grands projets, sur les grandes décisions, puis il faut rester avec des maires... Quel est le mot qu'on utilise? Docile, ah oui, des maires dociles. On aime la docilité au gouvernement.
Mais ça fait pas. La confrontation à tout prix, ça aide pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de façon de travailler en... On travaille en silo, au municipal, au provincial, au fédéral.
Contre-productif.
Exactement. Si on a cette vision-là, sauf qu'en même temps, de dire « c'est moi qui vais tenir les rênes, tu réussiras jamais, puis tu as besoin qu'il y ait une indépendance. » Toi, mais... demain matin, Denis, toi, demain matin, Yannick, tu te pars une entreprise, là. Ça se peut que tu aies envie d'avoir un genre de gestionnaire qui est un « doer », que tu vas y arriver avec des tâches que tu pouvais y faire. C'est pas quelqu'un qui va prendre de l'avance, pas quelqu'un qui va travailler en amont, c'est pas quelqu'un qui va avoir la confiance en lui pour développer des projets ou te challenger dans tes décisions. Tu vas avoir besoin de ce genre de leadership en gestion, mais tu vas aussi avoir besoin d'un genre de leadership qui est « je peux ne pas me casser la tête, que je sais que ça avance, puis si on a un problème, on gérera ensemble, mais c'est quelqu'un qui va prendre des devants, qui va tenter des choses, au risque que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. » Mais j'ai vraiment l'impression que dans les yeux de la CAQ en ce moment, dans la façon dont ils veulent gérer une province, c'est aussi gérer le municipal d'une manière où c'est pas juste des gens avec une façon de faire, mais plus des doers.
Je sais pas si on profiter de l'inexpérience de Bruno Marchand, mais une chose est sûre, c'est que la CAQ a gagné son bras de fer ultimement.
C'est une relation toxique pour les payeurs de taxes de la ville.
Absolument. Nous autres, on ne gagne pas, là. Je veux dire, pendant qu'ils se niaisent, moi, j'aimerais ça que, rendu où est-ce qu'on est rendu, puis c'est peut-être le début d'un aveu là, de défaite, là, de dire, OK, l'offre de la SQ, finalement, on va l'accepter. Là. Mais je pense qu'il faut que Bruno Marchand prenne conscience qu'il a perdu ce bras de fer-là. Il a perdu le souk à la corde. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu n'es pas content, là, mais il faut que tu changes ton approche. Je pensais qu'à partir du moment où il s'était fait retirer le projet de tramway, comme on enlève un hochet à un bébé, je pensais qu'il avait compris qu'il avait perdu la game, mais le ton n'a pas changé. La façon de demander les affaires, ça n'a pas changé non plus. Est-ce que ça nous a amené quelque chose de plus à la Ville de Québec? Non.
Poilievre qui arrivera dans quelques mois au pouvoir au Canada.
Ça va créer des belles relations.
Une belle relation avec la Ville de Québec.
Non, c'est mal parti.
En raison de Bruno Marchand, même chose pour ce qui est de la coalition Avenir Québec. Est-ce que... là, vous allez crier au complot, mais en même temps, j'aime bien ça, jaser. C'est-tu un hasard que Jonathan Julien ait rencontré sa mamade il y a de ça quelques semaines? Est-ce que la CAQ, je pose la question, ou je vous pose la question au 418-971-101, est-ce que la CAQ a choisi son prochain candidat?
C'est pas un hasard que ça sache. Tiens, m'a dire ça comme ça. Les politiciens... ils mangent ensemble à tous les jours. Il y a des libéraux qui mangent avec des péquistes. Il y a des péquistes qui mangent avec des solidaires. Il y a des solidaires qui mangent avec du monde de l'hôtel de ville. C'est petit, Québec. À tous les matins, ça déjeune ensemble. À tous les midis, ça dîne ensemble. Puis à tous les soirs, ça soupe ensemble. Pourquoi ça, c'est sorti puis que c'est devenu une nouvelle? Poser la question, c'est une partie de la réponse. Qui a intérêt à ce que ça se sache présentement? Qui est contre qui présentement? Qui a du fun à virer le maire de Québec dans ses shorts présentement, c'est le gouvernement de la CAQ. C'est pas un hasard que ça se soit su et c'est pas un hasard qu'on ait utilisé le nom de sa mamade. Est-ce que c'est le candidat béni de la CAQ? Pas certain. On va voir quand sa mamade va sortir. On va voir qu'est-ce qu'il va avoir à nous dire, qu'est-ce qu'il va avoir à nous présenter. Mais c'est peut-être prudent de sa part de s'assurer que le gouvernement serait ouvert. Mettons que sa mamade a deux projets là, dans sa tête là, pour la Ville de Québec. Ce serait prudent et avisé de sa part de s'assurer qu'il y aurait la collaboration de la CAQ pour ces projets-là avant de venir les déplier à la population. C'est toute une arme, ça, pour une élection municipale, de dire « non seulement je vous présente ces projets-là, mais j'ai l'accord de la CAQ qui va les financer dans le gouvernement. » Tu sais, si tu as cet argument-là en partant, tu as presque gagné ton élection. Donc oui, de facto, il deviendrait le candidat chouchou de la CAQ.
On est-tu pas mal sûr qu'ils se sont déjà rencontrés?
Ben oui.
Absolument.
Sa mamade et François Legault?
Oui, oh, ben, c'est clair que c'est fait.
Écoute, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par entremetteur ou pas, sa mamade est un homme prudent. Tu sais, cette longue période de réflexion...
Je commence à plus avoir de poignée dans le dos, là.
Sa mamade est un homme prudent. Quand il va se lancer, il va avoir tout checké ses lignes, puis il va avoir ce qu'il veut ou il n'y aura pas ce qu'il veut. Il va rester chez eux au pire. Il nous l'a déjà dit. Il dit « Moi, je suis indépendant de fortune, je gagne beaucoup d'argent, je suis très bien chez nous. »
Alors, il ne se présente pas s'il pense qu'il perd.
Il va se présenter avec une formule gagnante.
Il est numéro 2 dans les intentions de vote, puis il n'est même pas encore candidat.
Ben ouais. Juste pas qu'il pisse dans l'eau froide pour la réchauffer.
La marde est poignée dans le fan. Bruno Marchand est dans un problème. Le prochain sondage, il va passer probablement devant Bruno Marchand. puis il ne se sera pas encore présenté comme candidat.
Mais c'est-tu un beau message à lancer, ça, pour quelqu'un qui aspire à être maire de Québec, de dire « moi, je collabore avec le gouvernement ». C'est-tu ça qu'on veut vraiment?
On ne le saura pas de cette façon-là.
Je sais pas, hein?
Mais pas à 100%, on s'entend?
Ouais.
Moi, je veux bien...
Je veux quelqu'un qui tient son bout,
oui, je veux bien quelqu'un qui a une bonne relation, mais de business avec le gouvernement.
Voilà, on va terminer là-dessus.
Je veux que le maire soit plus populaire que le gouvernement tout le temps à Québec. Ça, ça nous sert. Quand on est du bord de notre maire, puis qui représente nos idées, puis qui s'en va se battre contre un gouvernement qui n'écoute pas beaucoup et qui est très montréalisé, moi, c'est ce que je souhaite. Je veux pas une lavette qui collabore avec le gouvernement sur tout.
Mais un maire qui représente nos idées, ça fait un bail qu'on n'a pas eu un.
Ça fait longtemps!
Mais c'était supposé de sortir quand?
Les populistes! Populistes!
C'était supposé de sortir quand que tu allais te présenter, Denis?
Ouais.
C'est la semaine prochaine?
Qui ça? Moi, ça?
Denis?
Loin, le plus loin possible de la politique, s'il vous plaît.
Voir monsieur le maire avec un capuchon sur la tête, des écouteurs dans les oreilles.
Je vais envoyer!
À me faire tirer des briques sur mon char.
Avec
là,
ses sandales, les pieds de poil.
On va laisser faire.
Midi 29, merci Denis.
Salut.
On reprend ça demain. Gravel.